France Inter, le 7-9.
Léa Salamé, il est 7h48 oui, et je vous laisse la parole. J'ai un papier qui me manque, je suis navré.
Je vais faire votre job.
Je reçois donc
un haut cadre d'Alstom et un grand reporter à l'Obs. Bonjour à vous Frédéric Pierucci, bonjour Mathieu Aron.
Bonjour à tous les deux.
Vous co-signez Le piège américain chez Lattès, sous-titre « L'otage de la plus grande entreprise de déstabilisation économique ». Et l'otage, c'est vous, Frédéric Pierucci. Nous sommes le 14 avril 2013. Vous êtes vice-président monde de la division chaudière d'Alstom. Vous passez votre vie dans les avions pour essayer de décrocher des contrats pour Alstom partout dans le monde. Ce matin-là, votre avion va se poser à l'aéroport JFK de New York. L'hôtesse va vous demander de vous présenter à la sortie de l'avion. À la sortie de l'avion, il y a des agents du FBI qui vous attendent. Et là, votre vie va basculer.
Effectivement, à l'époque, je dirige une des filiales d'Alstom. Et à mon arrivée à JFK, je suis arrêté par le FBI, menotté, mis dans une voiture banalisée et amené au siège du FBI. Là, un procureur m'a dit que je suis mis en cause d'une affaire de corruption. Alstom était sous enquête depuis plusieurs années et ne coopérait pas avec la justice américaine. Le procureur me propose de ne pas appeler mon entreprise, de ne pas appeler le consulat et de jouer la taupe, en fait, pour le FBI à l'intérieur d'Alstom.
Et vous refusez?
Et je refuse. À partir de là, le cauchemar continue.
Le cauchemar commence, puisque vous allez être envoyé en prison, dans une prison haute sécurité réservée aux grands criminels. Vous allez être enchaîné, menotté aux poignets et aux chevilles, une grosse chaîne vous en serrant le cou. On se croit vraiment dans un film américain, mais c'est la réalité et ça va durer 2 ans.
Effectivement. On m'envoie à partir de là dans une prison de haute sécurité, à Wyatt dans le Rhode Island, là où sont incarcérés les criminels de carrière. Je vais y rester 14 mois pendant lesquels je ne vais pas pouvoir voir mes enfants. Je vais pouvoir voir mon épouse une fois et lui parler au téléphone via une vitre blindée pendant simplement 2 heures. C'est vraiment un cauchemar. Je suis placé dans un dortoir de 54 personnes, dans des conditions absolument épouvantables. Et là, petit à petit, je comprends que je suis en fait un otage et que la véritable cible est le patron d'Alstom et l'entreprise. Et que le département de la justice américaine veut faire payer une grosse amende à l'entreprise et effectivement la racheter derrière.
Alors, on va essayer de comprendre. Vous témoignez dans ce livre-là, Mathieu Aron, vous l'avez coécrit ce livre-là. La justice américaine, Mathieu Aron, ne ment pas. Frédéric Pierucci a vraiment versé des pots de vin à des hommes politiques indonésiens pour décrocher des contrats, et notamment le contrat pour construire une centrale électrique. Ce sont des pratiques illégales mais courantes dans le milieu du business. En clair, tout le monde fait ça. C'est ça?
Effectivement, il faut comprendre. Frédéric commençait à l'expliquer. La justice américaine poursuivait Alstom depuis 2009. Lui est arrêté en 2013. Pourquoi on l'arrête? Parce que les Américains ont demandé en réalité à la société Alstom de coopérer, de s'auto-accuser, de s'auto-incriminer. Patrick Cron, qui était à l'époque le PDG d'Alstom, en réalité fait croire aux Américains qu'il fait sa propre enquête. Mais il ne fait rien. C'est pour ça que les Américains décident d'arrêter des cadres, pour faire monter la pression, pour faire peur en réalité à Patrick Cron, parce que le message qu'ils envoient à l'époque au PDG d'Alstom, c'est « Regardez, on vient d'arrêter l'un de vos quatre dirigeants, si vous ne coopérez pas, si vous ne cédez pas en fait à notre diktat américain, eh bien le prochain qu'on arrête, c'est vous, Patrick Cron. »
Voilà, en fait, il paye pour Patrick Cron, c'est très clair dans votre livre. Et puis vous le dites clairement, et c'est la thèse du livre, c'est qu'en fait la justice américaine mène une guerre économique contre les grandes entreprises européennes pour les affaiblir, une grande entreprise européenne donc Alstom, et renforcer les firmes américaines. Ça s'appelle de la déstabilisation économique à grande échelle, c'est un des moyens du protectionnisme. Ça se passe comme ça et ça se passe pour beaucoup d'entreprises.
Ça se passe comme ça. Frédéric a le courage de témoigner. C'est l'un des premiers cadres dirigeants qui, depuis 20 ou 30 ans, témoigne de cette affaire-là. Il faut savoir que depuis 10 ans, les États-Unis mènent une guerre économique sans pitié aux entreprises, non seulement françaises, mais aux entreprises européennes. Sous couvert de la lutte contre la corruption, ce qui est totalement, bien entendu, un objectif légitime, les États-Unis se sont auto-institués gendarmes du monde. Ils disent aux entreprises, s'il y a un seul échange en dollars dans vos comptes, si vous avez utilisé une boîte mail américaine, alors nous sommes compétents pour agir dans le monde entier. Et c'est comme ça qu'ils ont poursuivi les plus grandes entreprises françaises, qu'ils ont fait payer des amendes absolument exorbitantes à Alcatel, à Total, à Alstom donc, et aujourd'hui il s'attaque à Veolia et il s'attaque à notre géant aéronautique à Airbus, et ils sont son prix aussi aux plus grandes entreprises européennes, aux allemandes, aux italiennes, aux hollandaises. Au total, ce sont des milliards et des milliards d'amendes, ce qui déstabilise ces entreprises, bien sûr au profit des entreprises américaines.
Et ce qui semble fou, c'est qu'un an après votre arrestation, eh bien Alstom va vendre 70% de ses activités à son concurrent américain, General Electric. Et là, la boucle est bouclée. La justice américaine vous a arrêté. Et Alstom, fleuron industriel français, est vendu aux Américains. Comment est-ce que le gouvernement français, à l'époque, c'est Arnaud Montebourg qui est à Bercy, c'est Emmanuel Macron qui est secrétaire général adjoint de l'Élysée, comment est-ce qu'ils vont réagir? On sait que Montebourg s'est battu pour que Alstom ne soit pas vendu aux Américains.
Le seul qui se soit battu dans cette affaire, il faut le reconnaître, c'est Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg a tout fait pour qu'Alstom demeure français. Arnaud Montebourg a même en réalité constitué une espèce de petite force au sein de son ministère. Et il a compris ce qui se passait avec cette affaire américaine et l'enquête américaine même qui visait Frédéric Pierucci. Lui a compris. Emmanuel Macron va dire à laisser faire. A laissé faire, possédait des informations, c'est incontestable, il a laissé faire.
Pourquoi il possédait des informations? D'où vous savez qu'il possédait des informations?
Parce que effectivement, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, parce qu'il avait une très bonne connaissance des dossiers industriels, et parce que devant une commission d'enquête parlementaire, il a expliqué ce qui s'était passé. Lui a dit, quelque part, on a été pris de vitesse par Patrick Cron, qui a dealé dans notre dos avec les Américains. Il a même dit qu'il avait la conviction... Je dis bien la conviction, effectivement, que les choses s'étaient passées d'une drôle de manière, mais qu'il n'en avait pas la preuve absolue.
Vous allez passer 2 ans en prison, Frédéric Pierucci. Vous pensez qu'Alstom va vous aider, mais Alstom ne fera rien. Elle va même vous licencier pour abandon de poste.
Effectivement, après 6 mois, Alstom me licencie pour abandon de poste, sous prétexte que j'ai plaidé coupable dans cette affaire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment marche la justice américaine dans ce cadre-là. On vous menace de 15 à 19 ans de prison. Je n'ai pas touché un centime dans cette affaire, mais les États-Unis ont un barème de peine pour ces lois anticorruption, et cette barème de peine sont calculées en fonction du profit réalisé par les entreprises sur les projets incriminés. J'ai risqué 15 à 19 ans de prison. Et l'alternative, c'était de plaider coupable. Et de plaider coupable même sans voir les preuves contre moi. Donc effectivement, j'ai plaidé coupable. Et une fois que j'ai plaidé coupable, l'entreprise, sous la pression du ministère de la Justice américain, n'a pas eu d'autre choix que de me licencier.
2 ans en prison, 2 ans où vous êtes passé de haut cadre de multinationales français à un autre monde, celui de la misère et de la grande criminalité américaine. Qu'est-ce que vous avez appris en prison? Vous êtes devenu, j'ai lu, professeur assistant.
Effectivement, j'ai essayé d'utiliser mon temps du mieux possible. Le problème de la prison, c'est l'ennui. Donc il faut se faire un programme journalier. Donc j'ai essayé d'aider au maximum, d'écrire beaucoup. J'ai beaucoup lu, j'ai étudié toute la jurisprudence pour essayer de me défendre. Et j'ai rencontré aussi des personnages hauts en couleur, comme vous pouvez l'imaginer.
Que vous décrivez dans le livre.
Que je décris dans le livre.
Qui vous a le plus marqué?
Oui, il y avait cette personne qui m'a accueilli à Wyatt, qui avait fait 36 ans de prison, le dernier survivant de la French Connection, donc qui me racontait toutes ses virées à Paris, ses 4 ans de prison en France, le tribunal de grande instance de Versailles qu'il connaissait très bien. Ça a été un des personnages hauts en couleur.
Et là, qu'est-ce qu'il vous apprend sur les règles et les us et coutumes de la prison?
Alors, il m'apprend tout. Il m'apprend à vivre en prison, il m'apprend les règles, il m'apprend comment me défendre.
Donnez-nous quelques règles.
Pisser comme une femme, par exemple.
Qu'ils sont obsédés par les bactéries.
Ils sont obsédés par les bactéries. Lorsqu'on brosse les dents, on ne crache pas dans l'évier, mais on crache dans les toilettes. Voilà, toutes ces règles de base qui fait que, au bout du compte, dans un ordre de 72 personnes, vous pouvez espérer en sortir les droits.
Vous êtes sorti quand de prison?
Alors je suis sorti en fin septembre. D'ailleurs, je suis très content avec vous parce que il y a encore quelques semaines, mes voisins étaient un baron de la drogue qui avait tué 158 personnes, qui était un des hommes de main de El Chapo, le baron de la drogue mexicain, et l'autre était une personne qui avait essayé de se faire exploser dans le métro de New York. Donc,
vous vous sentez comment aujourd'hui? Vous avez retrouvé votre femme, vos 4 enfants. Qu'est-ce que vous espérez? Et pourquoi vous avez écrit ce livre?
Bah déjà, j'ai écrit ce livre pour expliquer à mes enfants pourquoi j'ai pas été là pendant 2 ans. Ça, c'était la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est pour alerter les cadres, notamment les cadres français, de ce risque. Ce qui m'est arrivé peut arriver à de très, très nombreux cadres. Et donc, j'ai voulu témoigner et j'ai voulu alerter les entreprises en plus des cadres de ces, sur ces risques.
Témoignage ahurissant, enquête passionnante, c'est un thriller incroyable. Merci à tous les deux, merci à vous d'avoir accepté de témoigner avec nous ce matin. Le livre s'appelle Le Piège américain, c'est chez Lattès. Merci et belle journée.